Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc « Regarde ailleurs », c'est vraiment une manière d'élargir son regard sur le monde à travers des parcours, à travers des expériences de vie. Là, on se retrouve dans un petit festival en Bretagne, dans un éco-village qui s'appelle le Bois du Barde. Sur le week-end, plusieurs intervenants sont venus prendre la parole pour parler notamment du vivre ensemble, du collectif, de cette thématique de l'habitat participatif ou des éco-villages qui aujourd'hui interpellent et de plus en plus de gens revoient un petit peu leur mode de vie et pensent à comment faire pour vivre autrement et être plus aligné avec ces valeurs. Donc je sais que tu es intervenu ce matin où tu as présenté un peu ton itinéraire, ton parcours, donc pour l'instant je sais encore très peu de choses sur toi, si ce n'est que tu t'appelles Maxime et que tu es woofer ici, donc on parlera aussi du woofing, on verra ce que c'est que le woofing, et que tu voyages à vélo de lieu en lieu. Voilà, donc on va revenir un peu au personnage, à l'origine de ce projet. Donc j'imagine qu'à un moment donné tu t'es dit tiens, je vais prendre mon vélo, mais pourquoi, comment ça s'est passé? Donc parle-moi un petit peu de toi, des valeurs que tu portes et comment est-ce que tu t'es mis en mouvement sur ton vélo, sur ta selle?
Alors du coup je dirais que à l'origine de ce voyage il y a trois raisons en fait. La première c'est mes convictions en matière d'écologie puisque à la base je suis ingénieur en aéronautique, donc j'ai fait l'école Estaca et j'ai travaillé 4 ans chez Safran Transmission Système à Colombes. Et au bout de ces 4 ans, je me suis reconverti dans l'écologie. Donc j'ai suivi un master spécialisé à l'INSA, manager de l'environnement et de l'éco-efficacité énergétique, donc ME4 avec l'INSA de Lyon, pour me mettre le pied à l'étrier de ce nouveau domaine, pour apprendre les bases, les notions de base sur ce domaine qui était nouveau pour moi. Et donc à la suite de cette reconversion, j'ai travaillé 8 mois pour l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, à Angers. Et après, comme je ne trouvais pas le job de mes rêves, parce que j'aurais bien aimé travailler pour les pouvoirs publics, donc les mairies, les communautés de communes, les métropoles, pour piloter des projets qui vont dans le bon sens et pour insuffler de l'écologie dans la société avec ce regard transversal. Mais j'ai fait plusieurs tentatives, j'ai eu pas mal d'entretiens, mais ça n'a pas abouti. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas m'entêter, je vais partir sur quelque chose de plus personnel, quelque chose qui a plus de sens pour moi. Puis il y a eu en plus le tumulte du Covid. Mais je dirais que la première raison, c'est l'écologie. La deuxième raison, c'est, comme je le disais, le fait que je butais un peu dans ma recherche de travail. Et la troisième raison, c'est des événements personnels qui ont fait que je me suis aperçu que je ne me reconnaissais pas dans la vie standard, entre guillemets. La vie qui nous est proposée majoritairement et bien souvent vers laquelle on s'engage sans se poser de questions, sans y avoir vraiment réfléchi, sans vraiment c'est de demander si c'était ça qu'on voulait. Et donc je me suis dit, puisque je ne me reconnais pas dans cette vie, allons voir comment vivent les autres. Et cette idée de voyage a germé dans ma tête petit à petit. Et l'idée de le faire à vélo, c'est venu juste après, parce que c'est un mode de transport que j'affectionne énormément. Je vois avant tout ça comme un outil de déplacement. J'ai passé 20 ans à Paris, donc j'étais très souvent à vélo.
On va revenir sur ces trois points, mais je retiens que tu as fait de l'aéronautique, tu as bossé pendant 4 ans avant de reprendre des études, tu disais en lien avec l'écologie, donc parle-moi de ce qui s'est passé en toi, pourquoi tu es allé vers l'écologie et qu'est-ce que c'est que pour toi l'écologie ?
Alors, j'ai pas eu une conversion violente, on va dire. Il n'y a pas eu d'événement dans ma vie qui m'a vraiment ouvert les yeux, où je me suis dit il n'y a pas eu de choc brutal. En fait, c'est venu comme ça. Ça m'est un peu tombé dessus. Je dirais entre la fin de mes études et le début de ma carrière chez Safran. Parce que j'ai passé 6 mois, j'ai travaillé, j'ai fait un CDD de 6 mois, J'ai habité chez mon père qui habite à la campagne, à côté de Vitré. Et donc, il habite à la campagne. Et c'est à ce moment-là, sur cette période-là, que ça m'est tombé dessus. Donc, je saurais pas l'expliquer. C'est venu comme ça. Voilà.
Et l'écologie, donc c'est un terme qu'on entend beaucoup. Mais qu'est-ce que tu mets derrière de l'écologie ? Qu'est-ce que c'est l'écologie ?
L'écologie, ouais, c'est vrai que c'est vaste. Bah, c'est prendre soin de la planète, de ce qui nous entoure, de avoir du respect pour tout ce qui nous entoure, les personnes, ce qui vit. Et puis voilà.
Quand tu me parles d'aérospatial, moi je pense avion.
Donc bah, pour moi l'écologie c'est le fait que notre société occidentale a fait des choix et on voit bien que ces choix nous mènent dans le mur. On est en train de, principalement pour des raisons économiques, de détruire tout ce qui fait notre environnement. On est en train de, alors on dit souvent scier la branche sur laquelle on est assis, mais je dirais plutôt on est en train de brûler le bois de la coque du bateau en fait pour se chauffer. Et donc, j'ai pris conscience que si on réagissait pas très rapidement, la vie allait devenir très dure et la planète invivable. Bon, tout ça, c'est des banalités qu'on entend très souvent quand on parle d'écologie, mais c'est comme ça que je le dirais, quoi.
Donc, toi, tu as quoi? Tu as un master, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et donc, dans ton domaine de formation, est-ce qu'on te parle déjà, parce que tu me parles d'aéronautique, alors peut-être que je me trompe complètement, mais moi, quand je pense aéronautique, je pense avion, je pense développement, je pense course effrénée au temps, tout ce qu'aujourd'hui, on est en train, petit à petit, de remettre en question. On en parle énormément aujourd'hui dans les informations, hein, le poids carbone, le bilan carbone de tous ces vols en avion. Donc, voilà, quand on est dans un système, quand on est étudiant, on est préparé quelque part à continuer à travailler pour ce système, hein, à travailler pour développer le PIB, la croissance, est-ce qu'on a quand même dans le cursus des profs qui sont là, qui remettent un petit peu en question les modes de vie frénétiques qu'on est en train d'avoir et cette famine de l'essentiel qu'on est en train d'alimenter à travers un mode de vie aberrant?
Alors je dirais que oui, donc juste avant le baccalauréat, quand on est en train de choisir son orientation, moi j'ai pas développé de passion étant jeune comme certains ont eu la chance. Et donc, on m'a parlé de cette école, l'ESTACA, qui forme à l'aéronautique. Et je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, l'aéronautique, c'est un domaine d'excellence. Et puis, les avions, ça a quand même un côté magique. Ça vole, ça transporte plusieurs dizaines de personnes à travers le monde. Mais en même temps, ça reste une machine, comme un grille-pain ou un micro-ondes. Voilà, donc il y avait ce côté un peu magique. Et après, j'ai fait mes études. J'ai suivi mes études. Donc, comme je disais, ce domaine m'intéressait. Mais j'étais pas réellement un passionné comme j'ai pu avoir certains camarades de promotion qui depuis de nombreuses années fabriquaient déjà des drones dans leur garage et qui étaient vraiment un peu des geeks de tout ce qui volait. Voilà, moi j'ai fait ça un peu parce qu'il faut faire des études. C'est vrai que dans ma famille on a tendance à faire des études longues, mais je savais bien que ce serait pas une finalité en soi et que je savais déjà que je travaillerais pas toute ma vie dans ce secteur, quoi. Voilà. Et donc comme je disais, entre la fin de mes études et le début de mon travail chez Safran, j'ai commencé à avoir ces convictions en matière d'écologie qui m'ont trotté dans la tête. Et j'ai choisi de me reconvertir. Alors voilà, l'aéronautique pour moi c'est un milieu qui est passionnant. Je prétends pas en avoir fait le tour, mais voilà, je sentais que j'étais appelé à quelque chose de plus, quelque chose plus en accord avec mes valeurs et mes convictions en matière d'écologie. Et voilà, donc j'ai choisi et j'ai un ami qui m'a parlé de, alors ça existe plus aujourd'hui, mais le congé individuel de formation. Donc c'est un moyen qui est fait pour se reconvertir. On reprend les études pendant un an, on continue à toucher son salaire et la formation est payée. Donc c'était vraiment le beurre et l'argent du beurre. Et donc j'ai dit allons-y et j'ai fait toutes les démarches et j'ai été pris pour ce master spécialisé. Donc tu m'as dit si j'avais un master, oui j'ai un master, un diplôme d'ingénieur, donc Bac+5. Plus ce master spécialisé, donc c'est un peu à part dans ce qu'on dit master 1, master 2, voilà, c'est un master spécialisé, voilà.
Tu finis les études et donc tu te retrouves confronté à la réalité du marché de l'emploi. Comme tu disais, tu as envoyé plusieurs CV, c'est pas forcément évident de s'insérer aujourd'hui dans un système, hein. J'imagine que les difficultés que tu peux trouver ou que tu as pu trouver sont sûrement partagées par beaucoup de jeunes diplômés, ou pas, comment ça se passe aujourd'hui?
Alors, ce que je dirais, c'est que oui, la difficulté que j'ai eue, c'est, je pense que s'il y avait aussi le côté atypique de mon CV, en fait, puisque quelqu'un qui a 4 ans de carrière dans l'aéronautique et qui veut basculer dans un milieu qui n'est pas encore tout à fait le sien, c'est atypique. Alors, bizarrement, sur le CV, les personnes étaient attirées, puisque j'ai eu plusieurs entretiens, comme je disais. Mais après, quand j'étais en phase 2, l'alchimie se produisait pas. Je dégageais pas les bonnes énergies. Peut-être qu'au fond de moi, je sentais déjà que j'étais pas appelé à ça, mais plus à autre chose, quoi.
Ce qui est parfois une bonne chose, de pas tout de suite trouver une case dans laquelle t'insérer après les études, parce que ça te permet de te repositionner dans ce que tu veux réellement faire. Et c'est là où tu as nourri ce projet de partir en vélo.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Peut-être que si j'avais trouvé un travail comme celui que je souhaitais avoir, et ben je serais toujours dedans. Alors après, c'est vrai que j'en parlais avec une amie qui elle travaille au CSTB, on peut le dire, donc dans le bâtiment. Et là-bas, ils ont créé une petite antenne qui s'intéresse aux écomatériaux, aux éco-constructions, mais ça reste minoritaire, et au recyclage aussi, à la réutilisation. Donc voilà, il y a des fois, c'est vrai qu'il y a un peu un dilemme en moi. Je me dis, peut-être que si j'avais choisi un travail comme ça, donc au sein d'une mairie où on pilote des projets, j'aurais eu peut-être plus la sensation de faire avancer les choses et pouvoir vraiment quantifier à la fin du mois les kilos ou les tonnes de CO2 que j'aurais permis d'économiser à la municipalité ou à la métropole. Mais après, je sais pas, j'ai choisi cette voie. Aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Je me suis senti plus appelé par ça. Et voilà, comme je dis souvent, la crise écologique, pour la crise écologique, c'est le genre de problème où il n'existe pas une solution, mais des solutions. Et pour moi, la vie en collectif, ça représente vraiment une solution sérieuse pour la transition écologique.
Donc là, je te rencontre sur un tour de France, des lieux alternatifs ou des lieux d'habitat participatif. Le collectif, tu parles du collectif, c'est vrai que c'est le cas sur le thème de ce week-end. Est-ce que tu avais été dans ton système éducatif préparé à ça? Est-ce qu'on parlait autour de toi des éco-villages en France, ou c'est vraiment quelque chose qui est venu à toi?
Alors non, j'ai pas du tout été préparé à ça. Dans ma famille, on est quatre frères et sœurs. Donc j'ai souvent été habitué à un peu de plus de, enfin, à rarement être seul dans mon enfance. Après, je sais pas, j'ai la sensation de, je sais qu'il y a des personnes qui humainement, énergétiquement se rechargent plus dans la solitude. Moi, j'ai la sensation que je me recharge plus dans le contact avec les autres. Voilà, et donc ça a sûrement joué dans cette attirance pour le collectif. Et puis pour moi, d'un point de vue technique aussi, le collectif permet de résoudre plein de problèmes auxquels on est aujourd'hui confronté dans notre société et qu'on peine à résoudre. Et quand on en résout un, il y en a trois autres qui émergent. Alors qu'avec cette vie en collectif, déjà rien que le fait de mutualiser énormément de choses, du matériel, ça fait moins de matériel à produire, et c'est forcément vertueux, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alors pour ce qui est de la partie vélo, c'est vrai que j'ai dû rechercher un peu pour trouver la configuration qui me convenait, parce que avant ce voyage, j'avais jamais fait de randonnée à vélo, de cyclotourisme comme on dit aussi, donc de longs trajets, de longs voyages à vélo. Comme je le disais tout à l'heure, je l'utilisais, le vélo, comme un outil dans mes déplacements urbains, donc sur des tout petits trajets. Donc il m'a fallu prendre connaissance de tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de voyager avec une remorque. C'est pas les remorques à une roue, c'est les remorques à deux roues. Normalement, c'est des remorques qui sont faites pour transporter des enfants en bas âge. Moi, je l'ai rempli à ras-bord avec tout mon matériel. Donc voilà. Alors après, c'est une longue histoire que je vais pas détailler ici. Mais bon, j'ai choisi cette configuration. Ça m'a pas empêché de faire 4000 km jusqu'à maintenant. Donc voilà. Après, c'est sûr que quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet comme ça, faut vraiment faire ça sérieusement. Et après,
c'était l'itinéraire. Donc, quand tu décides que tu pars explorer les collectifs, ben, faut commencer à les retrouver, enfin, tu les cherches sur une carte, faut les contacter.
Alors, ben, l'étape suivante, j'ai identifié un certain nombre de collectifs, un certain nombre de lieux. Ils sont pas intégralement tous collectifs, mais un certain nombre de lieux que je voulais visiter. Donc, j'ai fait une liste. J'ai exploré différentes pistes. Donc, évidemment, les annuaires qu'on peut trouver sur Internet, l'annuaire de la coopérative des Oasis, ou l'annuaire des toits alternatifs, ça s'appelle aussi. Et puis, je sais pas, le bouche à oreille, il y a eu plein de choses comme ça. Et ouais, c'est, je sais pas quand j'ai commencé cette liste, mais j'avais une liste de différentes sources à explorer. J'ai exploré toutes ces sources et j'ai trouvé une cinquantaine ou une soixantaine de lieux. Voilà. Et donc à chaque fois, bah, je prends connaissance du lieu, je regarde un peu le site internet ou ce qui se dit sur internet, et puis je vois si ça me parle ou si ça me parle pas. J'ai pas vraiment de critères précis pour choisir si un écolieu mérite d'être, si un lieu mérite d'être visité ou pas, si ce n'est un semblant de vie collective. C'est ce qui m'a attiré le plus. Mais il y en a certaines, comme je le disais, qui échappent à cette logique. Voilà. Et puis après, bah, je les ai tous positionnés sur une carte de France, et puis j'ai essayé de les assembler les uns à la suite des autres pour pas trop faire de détours. Et puis, bah, après, faut décider si vous voulez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Voilà. Enfin, c'est la logique que j'ai adoptée pour faire mon itinéraire. Donc, même si j'avais un tracé qui bouclait la boucle sur toute la France, eh ben, il y a eu beaucoup d'aléas, comme je le disais, parce qu'il y a des lieux qui n'existaient plus, il y a des lieux aussi qui pouvaient pas me recevoir sur les dates que je demandais, parce que c'est ça l'inconvénient de se déplacer à vélo, c'est que quand on arrive, bah, on peut aller dans tel lieu, mais sur des dates précises, quoi. C'est pas le mois prochain, bah non, je serai plus là, je serai plus loin, quoi. Voilà. Et donc voilà. Et il y a plein de fois où, bah, quand, voilà, par exemple, quand le lieu d'après peut pas me recevoir et que, bah, je cherche un lieu, parce que pour pas faire trop de vélo entre deux lieux, je cherche un lieu à proximité ou qui est sur mon trajet. Je le contacte et souvent ça marche. Et souvent c'est des belles découvertes, c'est des belles rencontres que je regrette pas, même si c'était un peu pour boucher les trous, on va dire, sur la carte. C'est souvent des belles rencontres. Il y a aussi une situation qui est assez inconfortable, où c'est quand je commence à être sur un lieu depuis plusieurs jours, donc voilà, ça commence à faire pas mal, et le lieu d'après qui est sur mon itinéraire n'a pas encore validé, n'a pas encore dit ok, c'est bon, on peut vous recevoir. Donc là, c'est assez inconfortable. Donc parfois, j'interroge les gens qui sont sur le lieu. Est-ce que vous connaissez des lieux à proximité? Et souvent, oui. Souvent, la réponse est oui. Donc j'ajoute ce lieu dans ma liste et je vais passer une semaine là-bas en attendant que le lieu d'après que j'ai identifié me donne le feu vert. Et ça s'est pas. Je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois, enfin très souvent, c'est des belles rencontres. Ouais.
Mais quand tu pars comme ça sur un lieu, tu sais déjà combien de temps tu vas y rester alors? Quelle est la durée minimum que tu te fixes quand tu vas faire du woofing quelque part? D'ailleurs, le woofing, un mot aussi sur ce que c'est, parce que si j'ai bien compris, c'est vraiment ta manière de voyager, d'aller faire du woofing sur des lieux.
Mm-hmm. Alors, j'ai choisi dès le départ un format assez court. Donc, quand je contacte les lieux, je leur demande de rester une semaine sur le lieu. Après, évidemment, je m'adapte aux conditions. Il y a des lieux qui exigent que je reste deux semaines. Parfois, j'arrive à négocier un petit peu. Il y a des lieux aussi qui me disent bah non, une semaine c'est trop long, on peut te recevoir 3 jours ou 4 jours, donc je m'adapte. Souvent j'y vais quand même. Voilà, donc un format très court, et ça me permet de voir beaucoup de lieux, hein, puisque là au Bois du Bard, et ben c'est le 44e lieu que je visite depuis mon départ. Voilà. Et donc j'ai choisi ce format-là. Alors c'est vrai que quand j'en parle aux gens, ils me disent « Ah bon, une semaine quand tu restes qu'une semaine sur un lieu, t'es sûr que t'arrives à voir tous les tenants, les aboutissants ?» Bah, c'est sûr que non, hein. C'est sûr que non. En plus, d'une semaine à l'autre, selon les activités du lieu, ça peut être l'ambiance peut être très différente. Et puis évidemment, quand vous visitez un écolieu en plein été ou en plein hiver, c'est pas pareil. Mais voilà, mais moi j'ai la sensation qu'en une semaine, j'ai la sensation de connaître un petit peu l'historique des personnes, de vraiment m'imprégner de l'atmosphère du lieu, et puis surtout de voir comment les gens interagissent entre eux, voilà, comment ils sont organisés, quelles sont les valeurs et la spiritualité qui les rassemblent, et voilà, et ça me permet de voir, enfin je vois très rapidement si les gens s'engueulent entre eux, voilà, ou si les gens parlent dans le dos les uns des autres. Ça c'est quelque chose que j'identifie tout de suite. Et en plus de ça, parfois ce côté voyageur, donc les gens savent que je vais pas rester longtemps, et ben parfois les habitants se confient à moi sur certains sujets qui se sentent pas de partager avec les autres habitants, quoi. Et donc ça c'est
Voilà. Il y a quelque chose de délicieux d'arriver quelque part comme ça en tant qu'observateur et essayer de ressentir l'ambiance, l'harmonie, la couleur, la saveur en fait qui se retrouve dans chacun des lieux.
Oui, effectivement, oui, c'est ça. Il y a des dans tous les lieux où je vais, il y a des informations techniques, voilà. Enfin, je pourrais citer des exemples, enfin, de quelle façon ils reçoivent les gens, quel est leur processus d'intégration pour les nouveaux habitants. Donc ça, c'est la technique. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une grosse part de ressenti, d'impression, où on perçoit les énergies du lieu. Il y a des lieux qui sont, je sais pas comment dire. Il y a des lieux où on sent vraiment que la joie est très présente, qu'il y a vraiment une belle. Une belle joie et que les gens sont vraiment contents d'être les uns avec les autres et de vivre ensemble. Et puis il y a des lieux où c'est un peu plus plat, on va dire, voilà, où il y a moins cette énergie, où les gens sont là. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont malheureux, mais on ressent moins ce côté joyeux, quoi. Voilà.
Comment tu te présentes quand tu les contactes? Vas-y, décroche ton téléphone et appelle-nous à travers ce micro.
Alors je contacte rarement les gens par téléphone, enfin les lieux par téléphone. J'ai un mail type en fait qui décrit assez succinctement mon projet, enfin un petit peu qui je suis, mon projet, pourquoi je veux venir et sur quelle date je voudrais venir. Voilà. Et j'ai préparé aussi une petite plaquette, donc une sorte de carte de visite, mais un peu plus détaillée. Donc une feuille, un document A4 où là je détaille un petit peu plus mon projet, ce qui m'a motivé, mes compétences, parce que voilà, je vais là-bas pour apprendre des choses, mais je m'efforce aussi de faire en sorte que ce soit donnant-donnant. Donc je leur dis, voilà, je peux vous aider sur tel domaine. Mon domaine, c'est le bricolage par exemple. Donc voilà. Et bon, voilà, un document un peu plus détaillé pour que les gens sachent que voilà, ok, ce gars il veut venir nous voir, c'est un gars qui a un vrai projet, un gars sérieux, et c'est pas juste un touriste qui va venir et pas forcément et être ingérable ou pas forcément respecter nos règles. Bon, ça n'empêche pas forcément, mais voilà.
Alors quel est le projet de ce gars sérieux qui s'appelle Maxime et qui respecte les règles?
Eh bien, donc je dis une ou deux phrases sur moi, et après je leur dis que j'ai envie de découvrir le vivre autrement et les personnes qui les font vivre, voilà, les personnes qui vivent de façon plus respectueuse de la nature et des hommes, et je dis que j'ai envie de partager pleinement la vie de ces gens les gens qui font vivre tous ces concepts, quoi.
Et donc il existe ce système absolument génial qu'est le woofing.
Oui. Alors le woofing, donc ça veut dire worldwide organic farming. Enfin, il me manque un O à chaque fois. Mais voilà, le concept, c'est en échange de son travail, eh bien on est nourri et logé. Alors normalement, puisque le F c'est farming, donc c'est appliqué au métier agricole, c'est pour découvrir le monde agricole sous tous ses aspects, hein, que ce soit élevage, maraîchage ou culture céréalière. Voilà, donc ça c'est le concept de base. Et aujourd'hui c'est encadré par le site woof.fr, parce que pour éviter certains écueils. Après, moi je suis parti de ce concept. Il y a quelques lieux que j'ai contactés via le site woof.fr. Et après, dans les lieux d'après, dans mon mail type, dans mon introduction, je leur ai dit que voilà, que je souhaitais vivre avec eux et les aider sur le principe du woofing. Voilà, alors selon les lieux, il y en a, je sais qu'ils savent tout de suite ce que c'est, donc je détaille pas. Il y en a, je précise, je fais une petite phrase pour dire ce que c'est. Voilà, et donc ça a l'avantage de permettre d'être au cœur de l'activité, au cœur des gens. On travaille avec eux, et il y a vraiment un truc assez particulier qui se passe quand t'es épaule contre épaule à désherber une bande de maraîchage avec une autre personne. Tu peux discuter avec la personne, et ça crée. Et voilà, et quand tu relèves la tête à la fin de la journée, et ben il y a quelque chose qui s'est créé entre toi et la personne. La relation est plus la même, et les informations passent mieux. Enfin, je sais pas, la relation est différente. Et donc voilà, donc le woofing permet de bien découvrir les lieux. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi très économique, puisque on est nourri et logé, les besoins primaires sont assurés. Donc ça demande très peu d'argent, quoi.
Alors, je parlais du thème de la rencontre, hein, donc il y a différentes manières de rencontrer quelqu'un, hein, ça va être dans un bar autour d'une bière où tu vas commencer l'échange sur tu fais quoi, tu es qui, là on se rencontre autour d'un micro, mais quand tu te rencontres dans le travail, hein, ce qui est le cas du woofing, parce que tu vas pour apporter une compétence, tu vas passer effectivement une après-midi à bosser avec quelqu'un que tu connais pas, donc tu te découvres à travers le travail. Est-ce que tu peux me parler de cette manière-là de rencontrer l'autre? Je trouve que ça change pas mal le rapport qu'on peut avoir aux autres, de se montrer dans une activité.
Exactement, c'est vrai que... Voilà, on voit comment l'autre travaille, on voit si l'autre est assidu, on voit le sérieux. Enfin, ça révèle énormément de choses sur une personne, de la regarder travailler. Et puis voilà, et ça me permet aussi de... Ça me permet... Ben voilà, quand les gens aussi me voient travailler, ils se disent, bon, ok, c'est quelqu'un de sérieux, on peut compter sur lui, on peut lui faire confiance. Et donc, les gens s'ouvrent petit à petit et sont plus ouverts quand je vais les voir pour leur poser des questions un peu plus délicates, un peu plus personnelles, quoi.
C'est souvent aussi un autre langage, hein. Tu vois, quand on se rencontre autour d'une table, on va être dans la parole, on va vouloir montrer la meilleure image de soi-même, mais quand on est en mode travail, on ment pas. En fait, c'est le message du corps, c'est d'autres formes de communication qui rentrent en jeu.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Je continue donc le woofing, hein, cet organisme génial en France qui te permet d'aller voyager dans différents collectifs. Là, je te rencontre aujourd'hui, tu me dis que tu as déjà fait plus de 40 lieux différents.
Donc dans chaque lieu où je vais, je note ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et donc j'ai une liste longue comme le bras de principes ou de petites choses qui m'interpellent en disant ah oui ça c'est pas mal, ou alors ah non ça je pense que ça fonctionne pas, ou alors parfois c'est une phrase ou une expression où je me dis bah là il faut creuser, il va falloir explorer ce domaine pour trouver des solutions. Voilà. Après ce serait difficile de résumer ça comme ça, il y a certains principes qui se dessinent, c'est sûr. J'en donne un. Il y a une chose pour moi à laquelle il faut faire attention dans un écolieu, c'est ce que j'appelle le syndrome du grand chef. C'est quand les fondateurs sont sur le lieu depuis un certain nombre d'années et même si ils ont beaucoup de difficultés à être dans une démarche de lâcher prise et à faire plus confiance au collectif et aux personnes qui le composent. Et donc, même si le temps passe, et bien souvent ces personnes finissent par vieillir et elles ont la sensation que si elles continuent pas à mettre leur nez dans toutes les affaires, loin dans le détail, et ben elles ont la sensation que si elles font pas ça, tout va s'effondrer, quoi. Voilà. Et ça c'est un écueil, parce que du coup les personnes qui sont autour, elles sentent qu'il y a ce manque de confiance, elles sentent que même si le lieu se veut en démocratie participative, ben ils sentent bien que dans la réalité, dans les faits, il y a pas vraiment de démocratie, puisque c'est encore les fondateurs qui décident. Et ça aide pas à la pérennité du collectif, quoi. C'est un exemple de principe que j'ai identifié. Il y en a d'autres, mais toute cette partie-là, c'est encore en construction dans ma tête. Pour le moment, je suis plutôt parti sur un format de récit de voyage. Et après, dans un second temps, il va falloir que j'organise mes idées pour essayer de faire des liens entre les différents écolieux et essayer, en toute modestie, de pouvoir faire émerger des principes comme celui que je viens de raconter.
Maxime, peut-être pour terminer, comment on fait quand on arrive dans un lieu, enfin déjà arrivé quelque part, c'est rentrer dans la bulle, dans l'intimité, hein, d'un collectif ou d'une famille. Comment on fait quand on arrive quelque part et qu'on ne trouve pas sa place ou quand on ne se sent pas forcément à l'aise? J'imagine que ça doit arriver.
Oui, ça arrive. Parfois il peut se passer un phénomène étrange. On a beau interagir avec les personnes, on a beau être sur le lieu depuis plusieurs jours, on a un peu la sensation de pas être parvenu à briser la glace vraiment avec les gens, alors que normalement quand on rencontre une personne, c'est quelque chose qui survient très rapidement. Mais voilà, on peut être un peu dans cette idée-là, dans ce sentiment-là, dans cette sensation-là. Après, ce qu'il faut, c'est dialoguer et puis vraiment voir comment on reçoit la chose, essayer de crever l'abcès et de parler vraiment avec les gens, avec les avec les personnes et je sais pas, et exprimer son ressenti et puis voir aussi comment on ressent le lieu. Faut pas hésiter à si on se sent pas bien dans le lieu et si on se sent pas, je sais pas comment dire, si le courant passe pas bien avec les habitants ou s'il y a certaines choses dans l'organisation, dans les principes qui nous plaisent pas, bah faut pas hésiter à partir. Hein. C'est aussi un des avantages du woofing. On n'est pas tenu par un contrat. On peut très bien quitter le lieu du jour au lendemain, quoi.
Et pour finir cette émission, regarde ailleurs. Donc, quand est-ce que tu t'arrêteras de pédaler? Et le jour où tu t'arrêteras de pédaler, c'est pour faire quoi et aller où?
Et après, je ressens l'énergie et la volonté et l'enthousiasme de créer un écolieu sur la base de toute cette expérience et en essayant encore une fois, en toute modestie, de ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu voir dans certains lieux, quoi. Voilà.
Le site internet?
Le site internet, c'est letourdefrancedu-vivre-autrement.fr.
Maxime, merci à toi.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.